Chapitre 9. Dimanche gris. Il y avait des dimanches, beaucoup de dimanches gris cet automne-là, mais qu'importait? Dans la tour ronde de Château-Pointu, tous les dimanches, bleus ou gris, étaient délicieux. Le matin, d'abord, sous les voûtes romanes de la petite église, Louise et Ferdine, assises côte à côte dans le banc du château qui avait un écusson sculpté, écoutaient ensemble le sermon. Ou bien, distraite, s'il faut l'avouer, elle suivait quelques pensées doucement vagabondes vers les absents, pensées qui tout de suite devenaient une prière. Un désir du bien parfait leur gonflait le cœur à toutes deux, et même si elles avaient été incapables de répéter ensuite les trois points du sermon, leur dimanche matin n'eût point été perdu. Elles en parlaient en remontant vers la tour, ayant plus de temps devant elles pour se laisser voir leur âme. Une chose les préoccupait toujours, leur promesse à Mademoiselle Octavie. Faudrait-il éternellement répondre à cette amie dont les lettres questionnaient patiemment « Non, je ne fais rien. Je vous ai promis de donner ma vie au bien, mais je ne trouve rien à faire. » « Il y a les lépreux de Sibérie, » disait Louise. « Pauvre Jean, mais grand-mère ne veut pas que je la quitte, et d'ailleurs, il faudrait être une héroïne. » « Je donne aux missions tout l'argent que je peux donner. »« Eh bien, Ferdine, cela ne me cause aucun plaisir. Et quand je lis dans la feuille missionnaire que leurs bœufs ont péri, là-bas par douzaines, je me dis, c'est avec mon argent qu'on les a achetés, ces bœufs, et voilà pourquoi ils sont morts. J'ai donné mon argent sans joie et sans foi. »« Quelle idée !» disait Ferdine. Et pourtant, elle sentait au fond d'elle-même que Louise avait peut-être raison. À quoi bon l'argent si le divin intérêt de la charité ne l'accompagne pas? Assurément, poursuivait Louise, mes devoirs envers grand-mère passent avant tout, comme ton devoir envers ton père quand tu le possédais encore. Mais grand-maman dort beaucoup. La moitié de l'après-midi, elle sommeille, son mouchoir sur les yeux, et le soir, pendant que je lui lis des vers ou le journal, elle s'assoupit tout doucement. Et parfois, la pauvre Louise ajoutait, « Il me semble déjà être vieille, vieille, aussi vieille que grand-maman. » Quand elles arrivaient à Château-Pointu, le déjeuner était servi au second étage de la tour, chez Louise. Grand-maman descendait, ou ne descendait pas, selon la couleur du temps. Après le repas, on montait chez elle, on causait un moment, puis les deux amies, quand elles voyaient la douairière somnoler, se retiraient dans l'une de ces embrasures profondes qui étaient comme de petites chambres autour de la grande. Louise avait déniché quelques trésors dans les collections de son père, dont les armoires de cette grande pièce étaient remplies, et Ferdine s'exclamait « Vraiment, si j'avais tant de choses précieuses autour de moi, j'attendrais des voleurs. Tu n'as jamais pensé aux voleurs, Louise ?» Louise répondait à voix basse en riant « Que de fois je les ai désirés, cela romprait la monotonie !» Alors, et toujours d'une voix discrète pour ne point réveiller sa grand-mère, elle contait à Ferdine l'histoire de voleur qu'elle rêvait, histoire dramatique, compliquée, saisissante, qui finissait bien. Si rien ne se passait dans la vie de Louise, beaucoup de choses se passaient dans sa tête. « Ce qui m'étonne, Louise, fit son amie au bout de quelques minutes, c'est que tu te confines dans cette vie imaginaire. La réalité semble n'avoir pour toi aucun intérêt. J'aurais compris autrement mon rôle dans ce coin de pays. Je connaîtrais chacun et j'irais souvent causer avec les vieux qui restent à la maison. De temps à autre, je ferais un plaisir aux enfants, ils auraient un beau sapin de Noël et, en été, une sauterie sur le foin et un régal de beignets. » Louise rougit et soupira. « Je n'ai jamais essayé, dit-elle. Tu connais ma sauvagerie. La seule idée de parler aux gens du village me donne le cauchemar. Je ne sais pas de quelle façon m'adresser à eux. J'ai peur qu'ils se moquent de moi. Ils ont de gros rires. Non, vois-tu, je ne suis heureuse que sur ma terrasse du Château Pointu où l'on ne voit jamais personne. » « Reste à savoir, dit Ferdine. À 20 ans, on a le blâme facile. » Si tu fais ton devoir en restant sur cette terrasse, riche comme tu l'es, comme tu le seras surtout, tu devrais être la providence du pays. » Cela, répondit Louise, qui avait réfléchi à ces sujets plus que ne l'imaginait Ferdine, cela, le rôle de providence ou de pourvoyeuse, comme on l'entend en général, cela est banal et facile. Demande plutôt à grand-maman. L'anniversaire de la naissance de papa tombe dimanche prochain. Dimanche, donc, dès le matin à leur réveil, 10 familles nécessiteuses recevront ce qu'elles attendent assurément, car ce don se renouvelle chaque année, un billet de 50 francs apporté par la douce main de M. Antoine. Aussitôt, comme de juste, un concert d'actions de grâces et de bénédictions montera vers Château Pointu, qui ne s'en portera pas mieux. Du moins, je n'ai jamais remarqué que nous fussions plus heureuses après le 17 novembre. Quelles sont ces 10 familles ? Demanda Ferdine intéressée. Je le sais à peine. Grand-maman a la liste qu'on n'a jamais renouvelée depuis 16 ou 18 ans que fonctionne le système. Françoise vient nous dire parfois le vieux Thomas ou Jean-Pierre est mort. Qui est Thomas ? Qui est Jean-Pierre ? Demande grand-maman. Allons donc, vous lui donniez 50 francs chaque bout d'automne à ce vieux rien qui vaille. Vraiment ? Et il est mort ? Que c'est ennuyeux ! A-t-il des enfants, au moins ? 2 filles. Parfaitement, l'aîné remplacera son père dans ma liste. Louise, s'écria Ferdine, c'est un conte que tu me fais là, et je ne te connaissais pas ce ton d'ironie. Il est impossible que ta grand-mère... Louise haussa les épaules et regarda d'un air triste par l'étroite fenêtre si profondément enchâssée dans la muraille épaisse, le village qu'on distinguait par moments derrière une buée de pluie au pied du coteau. « Grand-maman a la main toujours ouverte, reprit-elle, mais je doute qu'elle fasse beaucoup de bien réellement. C'est au petit bonheur. Il se peut que ses largesses, ici ou là, arrivent à propos, soulagent une vraie infortune. » Chaque premier de l'an, grand-mère envoie 1000 francs à l'hôpital que nous ne visitons jamais. Nous ne savons même pas comment il est administré. Le 5 avril, fête de mon aïeul Didier, la maman de grand-maman, ce sont les 25 plus vieilles femmes du village qui reçoivent chacune 25 francs. J'imagine que quelques-unes, comme la mère de l'aubergiste, ne sont pas pauvres du tout et n'ont aucun besoin de cette aumône. Il me semble qu'à leur place, je refuserais. C'est Françoise qui fait cette distribution-là, et elle ne la fait qu'en grommelant. Écoute, s'écrie Ferdine, par une inspiration subite, nous sommes d'assez grandes demoiselles, me semble-t-il, pour qu'on nous confie une mission. Demande à ta grand-maman qu'elle nous permette de remplacer M. Antoine dimanche prochain dans sa visite aux 10 familles. Demande-lui aussi sa liste et nous l'examinerons ensemble. Je prendrai des informations pendant la semaine. Madame Beaugivy est très renseignée. Je te vois venir, révolutionnaire, fit Louise. Grand-maman est trop vieille pour rien changer à ses coutumes.